travailleuses, travailleurs, chers amis, chers camarades. Je me présente à l'élection présidentielle pour faire entendre le camp des travailleurs, les intérêts des ouvriers, des employés, des jeunes et des moins jeunes qui sont condamnés au chômage et au petit boulot, les intérêts de ceux en invalidité ou à la retraite. Je suis candidate pour que les millions de familles d'hommes qui font tourner l'économie dans des conditions de plus en plus dures et tout en étant de moins en moins payés, puissent dire qu'ils existent, qu'ils sont les forces vives de ce pays et qu'ils ont des droits. Ensemble, nous faisons tourner toute la société. Nous produisons toutes les richesses, y compris les super profits qui sont encaissés par une minorité, y compris les produits de luxe qui sont réservés aux plus riches, les progrès de la technique, des transports, de la médecine, toutes les prouesses techniques, c'est nous. Nous sommes indispensables à la bonne marche de l'économie et de la société. Alors, nos intérêts, nos emplois, nos salaires, nos retraites, nos conditions de travail et de vie doivent passer avant les parachutes dorés des PDG, avant les dividendes des actionnaires, avant les fortunes d'une minorité capitaliste. Et il faut que nous fassions entendre le camp des travailleurs. Quand on appartient au monde du travail, quand on est ouvrier, quand on est au chômage, voter pour Le Pen, pour Fillon, pour Hamon, pour Macron, c'est voter contre son camp. C'est voter contre ses intérêts, c'est tendre le bâton pour se faire battre. Parce qu'ils aspirent tous à gouverner pour le compte de la bourgeoisie. Et ils sont socialement étrangers à la classe ouvrière. On le mesure avec le feuilleton de Fillon. Hein, vous avez peut-être raté quelques épisodes, mais je pense que vous avez compris l'essentiel. Fillon se dit aujourd'hui victime d'un acharnement médiatique et il reste droit dans ses bottes. Il répète en boucle qu'il n'a rien fait d'illégal, mais comme si c'était ça le problème. Fillon ne se rend même pas compte du décalage qu'il y a entre ses leçons de morale et ses propres actes. Il ne se rend pas compte que 900 000 euros pour sa femme, 80 000 euros pour ses enfants, 45 000 euros d'indemnité de licenciement, tout cela sonne comme une insulte pour les ouvriers, pour tous les jeunes qui sont condamnés au petit boulot. Mais en réalité, ce sont les mêmes comportements, la même arrogance que l'on retrouve dans le monde bourgeois, avec ses PDG et ses grands actionnaires qui n'ont de cesse de dire aux travailleurs qu'ils ne travaillent pas assez, qu'ils sont trop payés, alors qu'eux-mêmes empochent des dizaines, des centaines de milliers d'euros par mois sans rien faire de leurs 10 doigts. Alors oui, Fillon est à l'image de ces gens-là. Il est socialement étranger au monde du travail et il est politiquement hostile aux travailleurs. D'un certain côté, on pourrait dire qu'il a le mérite de ne pas le cacher, puisque lui, au moins, il annonce la couleur. S'il est élu, ce sera la loi El Khomri puissance 10, la fin de la sécurité sociale, la suppression de centaines de milliers de postes de fonctionnaires. Mais regardez en face, du côté de la gauche, du côté de Hamon, de Macron, regardez comment ils cherchent encore eux aussi à nous balader. Pendant ces 5 dernières années, ils ont participé au quinquennat de Hollande, qui a entériné les reculs sur les retraites, qui a augmenté la TVA, qui a aidé le grand patronat à baisser les salaires, à augmenter le temps de travail, à licencier. Et les voilà aujourd'hui qui nous promettent de tout changer. Macron ou Hamon s'érigent en petit nouveau de la politique, plein d'idées soi-disant fraîches et originales. Mais Macron, c'est le travail du dimanche, c'est la remise des bus sur les routes, c'est le culte de l'individualisme et du chacun pour soi. Il ne jure que par les auto-entrepreneurs, qui ne sont en réalité que des salariés, qui sont sans contrat de travail et sans protection sociale. Oh, bien sûr, ils sont libres, oui. Mais ils sont libres de s'auto-exploiter pour le compte de grands groupes capitalistes. Quant à Hamon, il se singularise avec sa proposition d'un revenu de base universel. Il parle de 750 euros d'ici à 2022, parce que, dit-il, il y aura de moins en moins de travail et donc, sous-entendu, de plus en plus de chômeurs. Et cela a suffi que certains reparlent de la gauche qui fait rêver. Mais le fait de devenir un assisté ne fait rêver aucun travailleur. Parce qu'un travail, c'est non seulement du salaire, mais c'est aussi de la dignité. Il n'y a que chez les bourgeois qu'on est fier de s'enrichir sans rien faire. Alors il faut rejeter ce type de charité. Il n'y a jamais eu autant de milliardaires en France. La plupart des grandes entreprises affichent des bénéfices records. Les entreprises du CAC 40 ont distribué 56 milliards de dividendes à leurs actionnaires en 2016. La fortune d'un Bernard Arnault, le patron de LVMH, a augmenté de 7 milliards d'euros en une seule année. Alors non, ce n'est pas l'aumône que nous demandons. C'est une politique qui répond à nos intérêts. Avoir un travail et un salaire, le droit d'être soigné, d'être logé dignement, le droit pour nos enfants d'accéder à une bonne éducation, le droit d'avoir une retraite décente. Et ceux parmi les travailleurs qui se disent que peut-être Le Pen ferait différemment de tous ces politiciens se trompent. Le Pen est une candidate bourgeoise, attachée à l'ordre capitaliste, comme les autres. Elle reprend tous les mensonges patronaux en expliquant qu'il faut par exemple baisser le coût du travail, baisser les dépenses publiques, améliorer la compétitivité. Autrement dit, au nom de la compétitivité, eh bien, elle justifiera comme les autres l'allongement du temps de travail, le blocage de la baisse des salaires, la réduction des cotisations patronales. Le Pen, c'est notre Donald Trump. Elle se déguise en candidate anti-système pour en prendre la tête et pour faire fructifier la fortune de ses petits copains et des plus riches. Pour plaire aux classes populaires, elle verse des larmes de crocodile sur les chômeurs et sur les plus pauvres. À condition, bien sûr, qu'ils soient français. Parce que Le Pen, c'est aussi une démagogue qui se sert des préjugés racistes de la xénophobie et qui les alimente pour ne pas dénoncer les véritables responsables du recul de la condition ouvrière. Vous l'avez entendu, je pense, sur l'agression du jeune Théo d'Aulnay-sous-Bois. Alors que la violence et le racisme de cette agression sont manifestes, elle n'a pas dit un mot pour dénoncer les policiers. En revanche, elle se sert des échauffourées qui ont éclaté pour déverser sa bile contre la jeunesse des quartiers populaires et contre l'immigration en général, qu'elle associe systématiquement aux voyous, à la racaille et aux zones de non-droit. Mais si ces quartiers sont des zones de non-droit, ce n'est pas parce que la police y est mal accueillie, c'est parce que les droits de cette jeunesse sont bafoués en permanence, parce qu'ils n'ont droit qu'à un succès d'année d'éducation, parce qu'ils sont cantonnés aux petits boulots mal payés, parce qu'ils sont rejetés au chômage, parce qu'ils subissent des humiliations racistes et des discriminations qui les relèguent et les marginalisent dans les ghettos de plus en plus pauvres. C'est parce qu'il y a des dirigeants comme Le Pen qui veulent mettre de l'huile sur le feu, parce qu'ils font de ces idées racistes, justement, leur fonds de commerce électoral. Et plus largement, quand dans cette campagne, Le Pen s'en prend aux étrangers, en voulant taxer leurs contrats de travail ou en imposant qu'ils payent pour leur couverture sociale ou pour l'éducation de leurs enfants, c'est abject. Parce qu'elle s'en prend, en fait, à ceux qui travaillent sur les chaînes de montage, dans les entreprises de nettoyage, de gardiennage ou de surveillance. Elle s'en prend à des ouvriers, à des intérimaires. Elle brandit exactement la même politique que celle du patronat, divisée pour régner. Alors oui, Le Pen est la digne représentante de la bourgeoisie. À l'opposé des Le Pen, Hamon, Macron ou Fillon, qui se préparent tous à servir la bourgeoisie, je suis candidate pour la dénoncer. Je suis candidate pour combattre les Bettencourt, Dassault, Peugeot, Michelin, parce que leur prospérité s'édifie sur le dos de l'ensemble du monde du travail. Parce que 20% de plus pour ce grand patronat, c'est 20% de moins pour les travailleurs. Parce que l'augmentation de leur fortune se fait sur la baisse de nos salaires ou de nos retraites. Ce sont leurs sinécures ou nos emplois. C'est la dictature du grand capital sur l'économie ou l'intérêt collectif des travailleurs et de la société. Et il n'y a pas d'entre deux. Il faut choisir son camp. Et le nôtre, c'est celui des travailleurs. Et il ne s'agit pas seulement des intérêts des salariés ou des chômeurs. Il s'agit des intérêts de tous ceux, artisans, commerçants, petits agriculteurs, auto-entrepreneurs, qui doivent travailler pour gagner leur vie. Parce que eux aussi ont à se battre en permanence contre le grand capital qui les étouffe. C'est le cas, par exemple, des chauffeurs de VTC contre la plateforme Uber. C'est le cas des agriculteurs contre la grande distribution. Et puis, je le précise, parce que dans cette élection, la démagogie nationaliste empoisonne tous les débats. Il ne s'agit pas seulement des travailleurs français. C'est une spécialité, justement, de Le Pen, d'opposer les travailleurs les uns aux autres, en fonction de leur nationalité ou de leur confession. Elle sème aussi la haine et le rejet de l'autre. Et elle favorise aussi, d'ailleurs, le repli communautaire. Alors, dans cette élection, eh bien, je dirais qu'au-delà de notre origine, de nos croyances et de notre couleur de peau, un aspect essentiel de notre vie et de notre identité, c'est que nous sommes des travailleurs, des ouvriers, des employés, des gardiens, des aides-soignantes, des caissières, des enseignants. Alors il faut serrer les rangs, il faut rejeter ceux qui veulent dresser des murs entre nous, et il faut affirmer notre conscience d'appartenir à une seule et même communauté, celle des travailleurs et des exploités. Et dans cette élection, eh bien, il faut affirmer nos intérêts, nos besoins et notre politique. Et faire entendre nos intérêts, à l'opposé de la politique pro-patronale, qui est en réalité défendue par tous les autres candidats, c'est ce qu'il y a de plus utile à faire. Tous ceux qui sont susceptibles d'accéder au second tour sont des serviteurs zélés de la bourgeoisie. Alors il n'y a pas de suspense, les jeux sont faits. Celui qui sortira des urnes en mai prochain sera un ennemi des travailleurs. Pour nous, le match est truqué. Il ne faut pas marcher dans leur jeu. Et puisqu'on nous donne la parole au premier tour, eh bien ne laissons pas le monopole à des politiciens bourgeois qui pensent en bourgeois. Exprimons-nous et disons tout le mal que l'on pense de cette société capitaliste. Et parallèlement à cette comédie électorale, eh bien mettons en avant nos idées. Notre propre politique, une politique de classe, un programme pour les travailleurs. Et le premier point de ce programme, c'est d'éradiquer le chômage. Le patronat, et à sa suite tous les politiciens, prétendent qu'on ne peut pas faire tourner une usine sans commande assurée et garantie. Eh bien nous, travailleurs, nous devons affirmer qu'on ne peut pas vivre sans travail et que notre vie ne peut pas dépendre des aléas de leur carnet de commandes. Nous ne sommes pas des machines que l'on peut brancher et débrancher. Nous avons une vie, une famille. Les loyers, les factures tombent tous les mois, même quand on a perdu son boulot. Il faut remplir l'estomac des enfants. Alors il faut que tout le monde ait un travail et un salaire. La première mesure de bon sens qui s'impose, c'est d'interdire les licenciements et les suppressions d'emplois, à commencer par tous ces grands groupes capitalistes qui font des bénéfices sous peine d'expropriation. Regardez Peugeot Citroën. Peugeot Citroën a réalisé sur les 18 derniers mois 2,5 milliards de bénéfices et a supprimé 17 000 emplois en 3 ans. Sanofi réalise 7 à 8 milliards d'euros de profits chaque année et a supprimé 4 700 emplois entre 2008 et 2015 et en supprime encore des centaines aujourd'hui. Et c'est vrai dans les banques, c'est vrai dans les assurances, c'est vrai à EDF, à SFR. Oh, ils se débrouillent toujours pour ne pas parler de licenciement. Ils parlent de suppression d'emplois. Mais ça fait autant d'emplois qui disparaissent au final. Et cela fait des dizaines, des centaines de milliers de chômeurs supplémentaires. Alors oui, la première mesure, c'est de commencer par stopper tous ces grands groupes capitalistes qui sont en fait les plus grands fabricants de chômeurs. Et je n'oublie pas les salariés des plus petites entreprises. Je sais qu'ils sont eux aussi concernés par les licenciements. Mais leur situation dépend bien souvent de ces grands groupes. Alors il faut imposer que ces groupes capitalistes, que les banques soient mises à contribution et qu'elles payent pour préserver les emplois, y compris dans toutes ces petites entreprises qu'ils étranglent. Parallèlement, il faut aussi créer des millions d'emplois pour les jeunes qui arrivent sur le marché du travail, pour tous ceux qui n'ont droit depuis des années qu'à quelques heures de boulot ici ou là, pour tous ceux qui sont rejetés de la production parce qu'ils sont invalides ou handicapés. C'est possible immédiatement en imposant que le travail soit réparti entre tous. Et ce serait une mesure salutaire pour l'ensemble du monde du travail. Dans presque toutes les entreprises, c'est vrai dans le privé, mais c'est vrai aussi dans le public, la charge de travail a été alourdie. Les horaires de travail, auxquels il faut rajouter le temps de transport, sont devenus insoutenables. Eh bien, il faut soulager ceux qui ont un emploi en diminuant leur temps de travail et en créant des emplois, des vrais emplois, avec un salaire complet. Il faut faire exactement l'inverse de ce que font tous ces grands groupes avec leur fameux plan de compétitivité qui impose heures supplémentaires obligatoires ou salaire de travailler obligatoire. Et puis, regardez les services publics. Est-ce qu'il y a trop d'infirmières ou d'aides-soignants dans les hôpitaux ? Regardez ce qui se passe au niveau de l'éducation nationale. Est-ce qu'il y a trop d'enseignants ? Pour ce qui est des logements, il manque 1 million de logements accessibles à un salaire d'ouvrier. Est-ce que nous n'avons plus besoin de maçons, de peintres en bâtiment, d'ingénieurs ? En réalité, il y a un grand nombre de besoins à satisfaire dans la société et donc il y a autant d'emplois à créer en face. Certains nous expliquent qu'avec la modernisation des moyens de production, avec le machinisme, des gains de productivité, il y aura de moins en moins d'emplois. Mais ça, c'est un raisonnement de patron. Ce n'est pas parce qu'il y a moins de travail qu'on ne peut pas se le répartir et créer de nouveaux emplois. Et au contraire, c'est ça notre conception de la modernité. C'est que justement, ces robots, ces gains de productivité permettent de soulager les salariés, de baisser les cadences et le temps de travail de tous. Mais bien sûr, tout cela suppose que l'on fasse passer les intérêts des travailleurs et de l'ensemble de la population avant les profits d'une minorité. Si nous laissons faire le grand patronat, ce n'est pas 6 millions de chômeurs que l'on comptabilisera, mais 7, 8, 9, peut-être 10 millions de chômeurs. Alors oui, la répartition du travail entre tous et la réduction du temps de travail sont des objectifs nécessaires et vitaux pour toute la société. Parce que le chômage, hein, je le redis, mais c'est un fléau qui pourrit la société de l'intérieur. Il aggrave la misère, il marginalise, mais aussi il pousse à l'individualisme, à la compétition entre travailleurs. Et c'est aussi de là que naît la peur de l'autre. Et c'est de là que naît la déshumanisation de la société. Alors oui, pour nous, c'est la priorité. Il faut un travail et un salaire pour tous. Puis à côté de cela, il faut augmenter les salaires et les pensions de retraite. Les principaux candidats, ceux qui sont susceptibles donc d'accéder au deuxième tour, nous expliquent tous qu'il est impossible d'augmenter le SMIC. Le Pen explique, je la cite, qu'elle n'a jamais proposé d'augmentation du SMIC payée par les entreprises. Parce que, dit-elle, elle ne veut surtout pas créer de difficultés au patronat. Et les difficultés qu'ont des millions de femmes et d'hommes à se loger, à se soigner, et même tout simplement à se nourrir, les privations qu'ils s'infligent, parce qu'ils sont payés au lance-pierre. Elles n'existent pas, elles. Bien sûr qu'elles existent. Mais Le Pen et tous les autres candidats s'en moquent. Ce n'est pas notre cas. Alors oui, il faut augmenter les salaires et il faut augmenter le SMIC. La CGT met en avant la revendication de 1800 euros par mois. Et il suffit de faire ses comptes. Il faut payer entre 500 et 700 euros pour le loyer, le crédit logement, et parfois davantage. 50 ou 100 euros par mois pour le gaz, l'électricité, l'eau. 50 ou 100 euros pour les assurances, la complémentaire santé. Il faut payer l'accès à Internet, le téléphone portable. Il faut aussi payer les traites de la voiture, l'assurer, faire le plein. C'est encore 4 ou 500 euros minimum qui partent. Et puis là-dessus, il faut encore payer les impôts, l'impôt sur le revenu, la taxe d'habitation. Et à la fin, eh bien, il reste quelques euros par jour pour payer nourriture, vêtements et autres articles de consommation courante. Et avec des enfants, eh bien, c'est encore plus serré. Alors, 1800 euros net par mois, c'est bien le minimum qu'il nous faut pour tous les salaires et aussi pour les pensions. Quant aux minima sociaux, Quant au RSA ou à l'allocation adulte handicapé, eh bien, je l'ai déjà expliqué. Il faut qu'il soit transformé en salaire, parce que tout le monde doit avoir le droit d'être intégré à une activité utile. Et quand je parle de ces 1 800 euros, il faut bien avoir en tête que ce n'est encore qu'un rattrapage. Il y a 10 ans, le SMIC net était à 1 000 euros par mois. Aujourd'hui, il est à 1 150. Cela fait une augmentation en 10 ans de 15%. Savez-vous de combien ont augmenté les salaires des grands PDG en 10 ans? De 65%. Alors oui, il faut un minimum de 1 800 euros par mois et une augmentation des salaires, de tous les salaires, de 300 euros. Et pour que ces hausses soient durables, eh bien, il faut que les salaires, les pensions de retraite suivent les augmentations du coût de la vie, celles des loyers, du gaz, des mutuelles, des impôts et des taxes, des péages d'autoroute aussi. On nous dit qu'il n'y a plus d'inflation. Mais il suffit de comparer sa taxe d'habitation ou sa facture d'électricité avec celle de l'année précédente pour se rendre compte que les prix augmentent. Entre les salaires et les prix, il y a en réalité une course perpétuelle. Alors ce qui compte, c'est que nos salaires et nos pensions suivent le coût de la vie. Alors on m'a déjà expliqué, alors souvent c'était des bonnes âmes qui, elles, étaient bien plus, très bien payées, hein, qui m'ont expliqué que ce programme était complètement utopique, hein, et que 1 800 euros par mois, comme un minimum, c'était de l'utopie. Je parle donc de 1 800 euros, et on parle d'utopie. C'est donc de l'utopie que d'espérer pouvoir vivre, hein, sans compter le moindre euro, en pouvant se chauffer comme il faut, payer des études à ses enfants, le permis. Mais les Carlos Ghosn, les Tavares, tous ces PDG des grandes entreprises, les grands bourgeois, les Arnaud, les Bettencourt, avec leurs dizaines de milliards, ils ne vivent pas dans l'utopie. Ils vivent dans le monde réel. Ils vivent dans notre monde. Alors, dire que 1 800 euros, c'est de l'utopie, c'est un choix de classe. S'il y a une utopie dans toute cette affaire, c'est d'attendre ces augmentations d'un futur président de la République. Pour y parvenir, il faudra renouer avec les luttes collectives puissantes et imposer un nouveau rapport de force avec le patronat. Et à ce propos, eh bien, je tiens à saluer les grévistes des cliniques de Tarbes qui ont mené justement pendant 65 jours... C'est leur organisation qui a justement réussi à faire céder les patrons de ces cliniques. Alors voilà l'exemple qu'il faudrait suivre, mais là, cette fois-ci, à l'échelle de l'ensemble de la société. La société est riche, elle est très riche. Il faut prendre l'argent nécessaire sur les profits des entreprises, sur les dividendes distribués aux actionnaires et aux besoins sur leur fortune, qui est accumulée au détriment de générations de travailleurs. C'est la raison pour laquelle les travailleurs doivent imposer leur contrôle sur les dirigeants de cette société. Il est de bon ton pour tous les politiciens de parler de transparence. Mais en réalité, ils empêchent les travailleurs de l'imposer. Y compris quand les journalistes lèvent des lièvres, eh bien vous les entendez tous s'indigner. C'est ce qui se passe actuellement avec l'affaire Fillon. Hein, Fillon est offensé qu'on lui demande des comptes aujourd'hui. Mais des comptes, les travailleurs sont sommés d'en rendre en permanence. Au moindre entretien d'embauche, à la moindre lettre de motivation, on est inspecté sous toutes les coutures. Et pour certains emplois, il faut même un casier judiciaire vierge. Et c'est pareil pour les chômeurs, qui doivent s'expliquer sur toute leur recherche d'emploi, qui doivent fournir des preuves justifiées de leur demande s'ils repoussent un rendez-vous. C'est la même chose quand on est en arrêt de maladie, y compris quand on souffre d'une maladie grave. Alors oui, il faut demander des comptes à tous ces politiciens. Et plus décisif encore, les travailleurs doivent pouvoir contrôler collectivement les comptes des entreprises et de la bourgeoisie. De fait, les salariés savent tout ce qui se passe dans les entreprises. Pas un courrier, même secret, n'échappe à l'assistante du PDG, quand ce n'est pas un emploi fictif, Hein, quand il y a, c'est une vraie assistante. Eh bien, elle prépare les courriers, elle les tape, elle les envoie. Eh bien, collectivement, en rassemblant toutes ces informations parcellaires, les salariés peuvent avoir le contrôle sur toutes les décisions et sur l'argent qui circule dans l'entreprise. Les patrons le savent, et d'ailleurs ils le craignent. C'est la raison pour laquelle ils imposent le secret professionnel. Eh bien, il faut que nous revendiquions la levée de ce secret. Et cette mesure est un objectif essentiel, parce qu'elle modifierait le rapport de force entre le patronat et les travailleurs, en nous donnant de nouvelles armes. Parce qu'il en serait fini du chantage patronal, des rumeurs, il en serait fini des fausses informations. Les travailleurs sauraient à quoi s'en tenir. Ils pourraient anticiper, s'organiser face aux attaques patronales, et même prendre l'initiative pour imposer leurs intérêts. Et puis alors, on mesurerait l'ampleur de ce que l'exploitation rapporte. Parce que le coût du travail, cela n'existe pas. Quand on est un salarié, quand on est un ouvrier, on rapporte l'argent, toutes les richesses de l'entreprise. Et puis bien sûr, on mesurerait aussi qu'il est tout à fait possible et d'augmenter les salaires et d'embaucher dans tous ces grands groupes qui font la pluie et le beau temps. Alors, voilà notre programme. Ce n'est pas un programme numéroté de 1 à 140 ou de 1 à 200. Hein, ce n'est pas un catalogue de promesses qui seront aussi vite bafouées qu'elles ont été inventées. C'est un programme qui découle tout simplement de nos besoins. Et oui, c'est le plus radical. Parce que contrairement aux autres candidats, nous ne cherchons pas à épargner la bourgeoisie et ses profits. Contrairement aux autres, nous ne considérons pas le marché et la concurrence comme des lois de la nature, mais comme un système qui est établi par une minorité et qui ne fonctionne que pour une minorité. Nous sommes communistes et nous pensons que la société devrait fonctionner sur des bases collectives, dans l'intérêt de tous. Autrement dit, nous n'avons aucun fil à la patte. Nous pouvons nous engager dans le bras de fer avec le patronat parce que nous sommes prêts à le combattre et à aller jusqu'au bout de ce combat, c'est-à-dire jusqu'à son expropriation. Alors j'appelle les travailleurs qui sont d'accord avec ce programme à voter pour ma candidature. Je les appelle à faire un vote de classe et un vote de combativité. Bien sûr, voter, ce n'est pas encore agir et se battre réellement. Mais le combat commence dans les têtes. On ne peut pas se lancer dans le combat sans être sûr de sa légitimité. On ne peut pas gagner sans être sûr de nos intérêts, sans comprendre où sont nos ennemis, nos faux amis. Tout cela se forge dans le combat politique, dans le combat des idées. Le premier tour de cette élection nous donne l'opportunité d'avancer dans ce sens-là, alors il faut y aller. Nous n'avons pas encore de parti à opposer à la bourgeoisie. En tout cas, pas de parti capable de mener le combat politique à armes égales avec les partis bourgeois. Et c'est tout le problème. Si les conditions d'existence des travailleurs reculent depuis des décennies, qu'ils sont désorientés, si la confusion règne dans beaucoup de têtes, c'est qu'il n'y a plus de parti ouvrier digne de ce nom depuis longtemps. Le vote pour ma candidature permettra, le temps d'une élection, de faire apparaître les travailleurs comme une force politique, comme un camp politique. Mais il faut qu'ils se maintiennent aussi après les élections. Parce que nous n'avons pas seulement besoin de nous exprimer, d'exprimer nos intérêts à un moment donné, au moment des élections. Nous avons besoin de mener le combat tous les jours, au quotidien, dans les entreprises, en permanence, contre la politique anti-ouvrière relayée par tous les gouvernements qui se succèdent, qu'ils soient de droite, qu'ils soient de gauche. Et cela, eh bien, c'est le rôle d'un parti. Il faut un parti qui affirme que la société est divisée en deux classes, aux intérêts inconciliables, et que nous, nous devons nous battre en ne comptant que sur nos propres forces pour défendre notre droit à l'existence. Un parti qui affirme que les travailleurs peuvent se passer du grand capital parce que ce sont eux, les travailleurs, qui font tout fonctionner dans la société. Voter, ce n'est pas encore construire un parti, mais c'est déjà rassembler de façon ponctuelle derrière un drapeau. Et d'élection en élection, de mouvement de grève en manifestation, eh bien tout cela participe de la construction du parti. Alors voter, et entraînez les gens autour de vous pour faire entendre le camp des travailleurs et aidez-nous à construire ce parti qui manque tant aujourd'hui à la classe ouvrière. À gauche, de la gauche, le vote pour Mélenchon n'a absolument pas cette signification. Mélenchon a lancé le mouvement de la France insoumise pour mener sa campagne. Dans certains de ses meetings, il parle de la classe ouvrière, de son rôle indispensable et de ses droits. C'est une petite musique plaisante aux oreilles, mais il manque les paroles. Concrètement, quels sont les engagements de Mélenchon vis-à-vis des travailleurs? Il promet l'abrogation de la loi El Khomri, le SMIC net porté à 1 326 €, les vrais 35 heures. Eh bien, c'est loin. C'est très loin de ce qui est nécessaire. Et pourquoi? Parce que Mélenchon se veut responsable, parce qu'il veut proposer une politique acceptable par la classe capitaliste. Parce que c'est bien beau de dénoncer la finance. Hollande, en son temps, l'avait d'ailleurs fait superbement. Mais il faut dire si on est prêt ou pas à la renverser. Et Mélenchon se dit prêt à renverser beaucoup de choses. La Ve République, les traités européens, mais pas le pouvoir de la classe capitaliste, pas le pouvoir de la bourgeoisie et pas sa propriété privée sur les moyens de production. Avec d'autres, y compris avec Le Pen ou Dupont-Aignan, Mélenchon se veut le champion du souverainisme et de l'indépendance de la France. En renégociant ou en sortant de l'Union européenne et de l'OTAN, nous redeviendrions souverains, le pouvoir reviendrait au peuple, nous dit-il. Tout ça, ce sont des mots en l'air. Les seuls souverains dans cette société capitaliste, eh bien, c'est Michelin, le roi du caoutchouc, Bettencourt, la reine des cosmétiques, c'est Peugeot, le roi de l'automobile. Quand on est exploité, quand on est un travailleur, un ouvrier, eh bien, on est souverain de rien du tout. Que les lois se décident en France, dans une 5e ou 10e république, qu'elles se décident à l'échelle européenne. On est dépendant de cette classe qui possède les capitaux et qui a le pouvoir de nous embaucher ou pas, de nous verser un salaire entier ou pas, de fixer nos horaires, les dates de nos congés. On est dépendant pour tout. Pour le choix de son métier, pour le choix de son poste de travail, de son lieu de travail même, y compris quand on est jeune. Comment choisit-on ses études? Eh bien, en fonction de ses passions, en fonction de ses envies? Non, en fonction du marché du travail, c'est-à-dire en fonction des besoins patronaux. Alors oui, parler de souveraineté, c'est encore une façon de brouiller les consciences des travailleurs et de les détourner de leur combat de classe. Et puis, c'est une façon de faire croire qu'il y a des intérêts communs entre les travailleurs et la bourgeoisie de France. Alors non, laissons les mots d'ordre de souveraineté du peuple ou de la France aux partisans de la bourgeoisie. Et reprenons les objectifs qui ont toujours été ceux du mouvement ouvrier, l'émancipation des exploités à l'échelle de la planète. Émancipation qui sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes et pas celle d'un sauveur suprême. Bien sûr, Mélenchon fera plus de voix que moi. Parce qu'il est compatible avec le système. Et parce qu'avec lui, tous ceux qui cherchent un raccourci en dehors des luttes collectives, en se raccrochant à un énième sauveur suprême, seront bien servis. Mais les voix qui se porteront sur Mélenchon ne mèneront nulle part, si ce n'est à de nouvelles désillusions. En revanche, les centaines, les quelques centaines de milliers de voix qui se porteront sur ma candidature auront, elles, contribué à élever la conscience de classe. Elles auront armé politiquement les travailleurs. On ne peut pas regretter le recul de la conscience ouvrière et renoncer à affirmer sa propre conscience de classe quand on en a l'occasion politique. Oui, le monde ouvrier a besoin de repères politiques et d'une boussole. Eh bien, il faut que cette élection soit l'occasion de les mettre en avant. Et à l'inverse de Mélenchon et de son mouvement qui n'existe que pour porter sa candidature à la présidentielle, eh bien notre campagne nous aidera à avancer dans la construction du parti qui est nécessaire aux travailleurs. Oui, ce sera un vote constructif. Malgré toutes les trahisons subies il faut que l'ouvrier retrouve confiance en lui-même. Appartenir au monde du travail doit être un motif de fierté. La bourgeoisie, les actionnaires, les PDG prétendent être la clé de voûte de l'économie. Ils ne sont rien sans nous. Imaginez les Arnaud, les Peugeot, tous ces grands bourgeois sans les salariés des hôtels et des restaurants de luxe. Imaginez-les sans les conducteurs de train, sans les pilotes d'avion, sans leurs cuisiniers, leurs majordomes, sans leurs baby-sitters. Si nous ne faisions plus tourner leurs bureaux, leurs usines, où feraient-ils fructifier toute leur fortune? Alors oui, nous représentons une force sociale. Une force sociale qui a prouvé à bien des reprises dans le passé qu'elle n'était pas vouée à subir, mais qu'elle pouvait aussi se battre. Nous faisons cette année le centenaire de la Révolution russe. Il y a 100 ans, les travailleurs et les paysans russes ont fait la preuve que la classe ouvrière pouvait prendre le pouvoir et s'en servir pour transformer la société par en bas, pour en créer une autre radicalement différente, basée sur la propriété collective. Une société sans patron, sans la domination de l'argent et du profit, une société et une économie d'abord organisées pour répondre aux besoins de toute la population. Il faut connaître cette histoire. Car le peu de temps que les travailleurs sont restés au pouvoir, eh bien ils ont réalisé ce qu'aucun autre gouvernement n'a fait. Aussitôt mis en place, le pouvoir révolutionnaire a soutenu les paysans pour qu'ils se distribuent les terres. Il a organisé la production pour répondre aux besoins urgents de la population, en contrôlant et en expropriant quand la bourgeoisie ne voulait pas collaborer. Ils ont réquisitionné tous les immeubles bourgeois pour que tout le monde ait un toit sur la tête. Et puis, surtout, ce pouvoir révolutionnaire a mis fin à la participation de son pays à la boucherie que constituait la Première Guerre mondiale. Il a donné la possibilité à tous les peuples qui étaient sous la domination de la Russie de se libérer et d'être indépendants. Il a non seulement donné l'égalité des droits aux femmes, mais il les a associés à tous les niveaux du pouvoir. Alors quel autre gouvernement prétendument démocratique a réalisé cela? Aucun. Et même si le stalinisme a finalement pris le dessus, en déformant et en caricaturant et en trahissant les aspirations des révolutionnaires, eh bien cela ne peut pas effacer ce que les travailleurs ont réalisé. Alors oui, nous pouvons être fiers de ce que notre classe sociale a accompli dans le passé. Il ne s'agit pas que du passé, il s'agit aussi de l'avenir. Les travailleurs sont les seuls à pouvoir impulser une société débarrassée de l'exploitation, du capitalisme, de la concurrence, de ses crises et de ses guerres. Parce que le capitalisme ne pousse pas seulement les opprimés à la déchéance matérielle, il pousse toute la société à la décadence morale. Il pousse à l'indifférence, à l'isolement et à la haine de l'autre. Et il fait le lit, oui, de la délinquance et aussi de ce fanatisme religieux. Quand ce n'est pas la barbarie des bombardements ou du terrorisme, c'est la barbarie des murs, des barbelés que l'on oppose à des centaines de milliers de femmes et d'hommes qui fuient l'enfer. Et à ce propos, je veux exprimer mon entière solidarité aux femmes et aux hommes du pays qui offrent aujourd'hui un toit, un repas, une aide aux migrants. Aujourd'hui, ils sont arrêtés, gardés à vue, poursuivis en justice simplement parce qu'ils se comportent humainement et parce qu'ils ont inventé, ce qui nous dirige, le délit de solidarité. Eh bien, si se conduire humainement est un délit, vive le délit d'humanité. Et puis, sur le fond, sur cette question des frontières, les principaux candidats sont d'accord. Il faut élever des frontières toujours plus hautes, toujours plus étanches. Et ils nous répètent tous en boucle qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Mais dans les beaux quartiers, l'argent coule à flot. Les caprices de riches se chiffrent par centaines de millions. L'argent gaspillé dans la spéculation se compte par dizaines, par centaines de milliards. Et on ne pourrait rien faire contre la misère. La misère, ce sont eux qui la fabriquent. Ils la fabriquent en Syrie par leurs manœuvres et par leurs bombes. Ils la fabriquent ici par le chômage et par la précarité. Et ils se servent du drame des migrants pour nous prêcher la résignation. Lorsqu'ils nous disent qu'on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, exactement comme ils nous expliquent qu'on ne peut pas assurer un travail à tous ou qu'on ne peut pas espérer la retraite à 60 ans. Alors il faut avoir cette conscience qu'en tant qu'exploités, nous sommes tous des migrants potentiels. Et notre intérêt à tous, c'est de nous battre pour la liberté de circulation et d'installation pour tous les opprimés de cette terre. Notre intérêt de classe n'est sûrement pas de nous battre entre nous pour que l'on se partage la misère, mais c'est d'imposer ensemble le contrôle sur les richesses que nous produisons et c'est de s'opposer à ce qu'elles soient confisquées par une minorité. Les travailleurs n'ont rien à gagner à la concurrence entre eux, rien à gagner à la compétition entre les peuples, rien à gagner aux guerres, qui sont le fruit des rivalités impérialistes. Travailleurs sont de toute nationalité, de toute religion et de toutes les couleurs de peau, mais ils n'ont qu'une seule politique qui corresponde à leurs intérêts. C'est celle de se libérer de l'exploitation. Alors oui, loin, très loin de l'individualisme effréné du capitalisme, eh bien ils représentent la seule force sociale capable de construire une société de justice, de fraternité, débarrassée des classes sociales, du nationalisme, du racisme et de la xénophobie. Alors voilà aussi ce que représente pour nous le camp des travailleurs. Depuis des décennies, l'élite dite intellectuelle explique qu'il n'y a plus d'ouvriers, plus de classe ouvrière. Et puis, regardez comment aujourd'hui on parle même des travailleurs comme d'une espèce en voie de disparition. Mais nous, sommes quoi? Nos familles, nos barres d'immeubles, nos quartiers, nos villages sont habités d'actionnaires, de rentiers? Bien sûr que non. De femmes et d'hommes comme nous, qui travaillent dans les métiers bien souvent les plus pénibles. Et puis, l'économie qu'on nous vend comme moderne, l'économie Uber, eh bien, elle aussi, elle produit des travailleurs, dont des chauffeurs qui étaient fiers d'être indépendants il y a un an ou deux, mais qui aujourd'hui revendiquent d'être embauchés avec un contrat de travail. Alors oui, la classe ouvrière existe. Et s'il y en a qui peuvent prétendre qu'elle n'existe plus, c'est parce qu'elle se rend invisible politiquement. On l'a vu pourtant intervenir lors de la mobilisation contre la loi El Khomri. Et encore, ce n'était qu'une fraction de la classe ouvrière qui a été mobilisée. Il y avait beaucoup de réserves dans les entreprises, dans les bureaux, dans les ateliers. Eh bien, il faut que cette classe sociale, cette classe ouvrière, elle s'exprime aussi sur le terrain politique. On nous met dans la tête que cette élection doit servir à élire quelqu'un, le prochain président de la République, et que c'est tout l'enjeu de cette élection. Alors avec cette logique, forcément il faut parier sur le tiercé de tête, et je n'en fais pas partie. Mais encore une fois, choisir le prochain président qui nous portera des coups n'a aucun sens. Imaginez qu'une élection soit organisée dans votre entreprise pour élire le prochain PDG qui aura la mission de mettre en œuvre le énième plan de licenciement ou le énième plan de compétitivité. Est-ce que vous le choisiriez? Alors dans cette élection, eh bien c'est la même chose. On nous demande d'élire le prochain président qui fera reculer les retraites, qui donnera plus de liberté au patronat pour nous exploiter, pour aggraver nos conditions de travail et de vie. Eh bien, il ne faut pas marcher là-dedans. L'enjeu ne doit pas être d'élire l'un plutôt que l'autre. L'enjeu doit être d'exprimer ses intérêts, ses perspectives politiques. J'appelle tous ceux qui partagent ces idées à voter pour ma candidature sans crainte d'être minoritaire ou à contre-courant. Encore une fois, à quoi cela sert-il de voter avec la majorité quand cela conduit à élire un adversaire? Aujourd'hui, combien de nos amis, de nos collègues se mordent les doigts d'avoir voté pour Hollande en 2012. Et il faudrait recommencer avec un autre. Croire qu'il faut voter utile ou voter pour le moins pire de façon à se protéger est aussi un leurre. Il n'y aura pas de moins pire pour le monde ouvrier tant qu'il ne renoue pas avec les luttes collectives, tant qu'il ne se bat pas collectivement. Quant à s'abstenir, ce n'est pas une preuve de conscience ni de radicalisme. S'abstenir, c'est se soumettre. Et puis, c'est déserter. Parce que si nous ne défendons pas nos idées, personne ne le fera à notre... personne ne le fera. Personne ne mènera le combat à notre place. Alors, parfois, on ne trouve pas les moyens de se battre, de faire grève, de manifester, ou simplement de protester, parce qu'on est seul, ou parce que le rapport de force est trop défavorable. Mais voter, s'exprimer dans l'urne est un geste à la portée de tous. Et il n'y a pas de petits combats, il n'y a pas de petits gestes. Quand on est minoritaire, la moindre voix compte et peut porter. Alors oui, il faut entraîner le maximum de ceux qui nous entourent à joindre leur voix à la nôtre. Nous sommes à contre-courant, c'est vrai. Mais quand le courant pousse dans une direction aussi réactionnaire, aussi infecte, voire aussi barbare, et quand le courant pousse justement à cette soumission et à cette résignation, eh bien oui, nous pouvons être fiers d'être à contre-courant. Je suis la candidate de Lutte ouvrière. Les institutions sont faites comme ça. Il fallait un nom et mes camarades m'ont choisi pour mener cette campagne. Mais ce n'est sûrement pas une campagne personnelle ou individuelle. Bien sûr, je serai en première ligne dans les médias et je me battrai comme je pourrai sur les plateaux de télé quand on m'en donnera la possibilité, ce qui est tellement rare que je n'arrive même pas à le dire. Mais en quelques minutes, je ne ferai pas de miracle. Je convaincrai surtout les convaincus et je toucherai peut-être aussi tous ceux qui sont révoltés par la situation, mais qui doutent de leurs convictions et qui n'osent plus avoir d'idéal. Ce n'est déjà pas rien, parce qu'une campagne menée comme celle-ci à l'échelle nationale, eh bien, elle permet justement de s'adresser à des millions de travailleurs. Et parmi eux, il y a plusieurs centaines de femmes et d'hommes qui partagent, à un degré ou à un autre, ces idées. Ma candidature leur permettra de rompre leur isolement, de se rallier à un camp, et elle leur permettra de se conforter dans leurs convictions. C'est déjà quelque chose d'important. Mais bien plus largement, il y a aussi tous ceux qui se posent des questions, tous ceux qui sont perdus. Il y a tous ceux qui retombent dans le panneau des illusions électoralistes. Tous ceux aussi qui sont tellement écœurés qu'ils ne veulent plus entendre parler de politique et de voter. Et ils sont dans nos familles. Ce sont des amis, des voisins, des collègues de boulot. Et c'est vous qui pouvez les toucher en prenant le temps de la discussion. Il faut essayer de les convaincre, de leur donner envie de s'exprimer en tant que travailleurs, salariés, chômeurs. Au-delà du résultat, ce qui comptera, ce sont toutes les discussions que vous aurez eues. Le simple fait d'avoir affirmé des convictions, d'avoir fait réfléchir, d'avoir apporté des réponses, d'avoir avancé des idées parmi les nôtres est quelque chose de très important. Nous sommes une petite organisation, mais les idées que nous portons nous dépassent parce qu'elles sont inscrites dans les bases mêmes de la société. Elles reflètent la lutte de classe à laquelle des millions d'exploités sont confrontés et tôt ou tard, ils auront besoin de ces idées. Alors, rien n'est à négliger, toutes les discussions seront utiles. Vous l'avez compris, pour que ce soit une bonne campagne, pour que ce soit une campagne réussie, il faut que ce soit votre campagne, il faut que ce soit notre campagne. Pour finir, un petit effort de projection dans le futur. Au lendemain de mai 2017, après cette élection présidentielle, qu'est-ce qui aura changé pour nous? Eh bien, on ira au travail, pour ceux qui en ont un. Beaucoup d'autres iront pointer à Pôle emploi ou à l'agence d'intérim. Et puis, on se retrouvera confrontés au même chef, au même patron, aux mêmes actionnaires invisibles mais tout puissants. On se retrouvera confrontés à son banquier, à son propriétaire qui n'admet aucun retard de paiement, même quand on a perdu son boulot. On se retrouvera confronté au pouvoir de l'État qui sait très bien dérouler le tapis rouge pour les plus riches mais qui est sans pitié pour les classes populaires. Autrement dit, pour nous, rien de fondamental n'aura changé. parce que ces élections ne changeront pas notre sort, notre condition d'exploité, ni cet ordre social qui est dominé par l'argent et par la bourgeoisie. La nouveauté, c'est que le petit personnel politique aura changé, les riches auront un nouveau président de la République à leur disposition. Mais pour nous, le combat continuera. Alors, dès aujourd'hui, dans cette campagne, levons notre drapeau, celui des travailleurs et des luttes collectives. Votez et faites voter pour faire entendre le camp des travailleurs. Faites un vote de classe, un vote de conscience et de fierté ouvrière. C'est cela qui nous préparera aux luttes que forcément nous aurons à mener.